Produire, cultiver, vinifier, cuisiner, pâtisser, tous ces gestes reproduits jour après jour pour que nous puissions nous nourrir, nous abreuver en toute confiance. Un des premiers engagements environnementaux se trouve dans ce que nous avons dans notre assiette, dans notre verre. C'est un combat qui s'inscrit dans le long terme. C'est une question fondamentale de transmission afin que les prochaines générations puissent bénéficier du savoir que nous apporte le vivant. Rendre ce vivant beau, sain, gourmand, partager et rendre accessible le fruit de nos productions au plus grand nombre. Mères nourricières, nous le sommes. Elles le sont. Au centre de tout cela, le bon. Pour le regard, l'oreille, le goût, le toucher et l'odorat. Car tout cela forme un tout, un cercle infini. Lorsque je pense aux femmes qui ont été mes invitées jusqu'à présent sur ce podcast, voici les mots qui me viennent à l'esprit. Inspirantes, émouvantes, vibrantes, ancrées dans leur terreau de passion pour la gastronomie. Elles sont d'horizons multiples et variés, faisant leur part, chacune de leur côté pour le bénéfice de la collectivité. Cet espace qui est ce média leur est totalement dédié. Lors de nos conversations, elles ont la possibilité d'exprimer qui elles sont, de parler de leurs engagements dans ce monde du manger et du boire. Qui sont-elles? Où puissent-elles leurs inspirations, leurs aspirations? Quels sont leurs rêves pour demain? Bienvenue sur le podcast des Ailes en Cuisine. Je suis Stéphanie Vautreau, chef nomade multipotentiel, et vous allez écouter l'épisode 50. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Anna P. Delaborde, créatrice de l'échoppe de la Lune. Vous dire que l'épisode que vous allez écouter est riche d'enseignements, de storytelling et de soleil est peu dire. Notre conversation aurait pu durer 3 heures tant Anna a de choses à dire, à transmettre. Je vais donc essayer de faire une introduction courte, souhaitez-moi bonne chance. Après une première carrière dans la grande distribution où déjà elle met en application la précepte d'ouvrir les bonnes portes, c'est au détour d'un repas familial qu'elle s'intéresse pour la première fois aux richesses gastronomiques de Bordeaux. À elle l'histoire de Cacolac, de Jocques, de Marie Brizard. S'en suivra une rencontre, grâce à son oncle, qui la propulsera dans ce qui deviendra l'aventure L'Échoppe de la Lune, première épicerie fine musée de France, mettant à l'honneur les produits bordelais créés entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui. Anna nous racontera combien cette histoire, ses histoires, l'habitent, mettant ainsi au service de ses clients son savoir, sa pédagogie, pour que chacune et chacun ressorte de son lieu avec un bout de Bordeaux et de ses environs. Elle nous parlera de vie de commerçant, d'opportunités à ne pas louper, d'intuition. Elle nous partagera sa vision en tant que membre actif du tissu économique de sa ville et de son rayonnement. Et tellement d'autres choses. Il est temps pour moi de vous laisser avec Anna, un verre de Cacolac à portée de main. Je vous souhaite une belle écoute.
Bonjour Anna.
Bonjour.
Comment tu vas?
Je vais super bien et toi?
Ça va, écoute, bien, vraiment, en ce début d'année, enfin maintenant qu'il y a bien entamé quand même, si on avait à dire le premier trimestre, pas mal.
Ouais.
La saison s'annonce bien.
Malgré la flotte qu'on a depuis quelques semaines.
Ça me déprime de voir les fossés qui débordent par chez moi, c'est assez terrible. Mais bon, on guette le soleil.
Il va arriver. Oh oui, on le sent.
Hein, on compte sur lui.
On le sent. En tout cas, on l'appelle.
Oui, on l'appelle et on appelle les mouettes aussi. Sur le bassin. Bon, bah, écoute, merci de me recevoir.
Je t'en prie.
On va commencer directement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Donc, je m'appelle Anna P. Delaborde, j'ai 37 ans, j'ai 2 enfants et je suis la fondatrice de l'Échoppe de la Lune, l'épicerie qui rassemble tous les produits qui sont nés à Bordeaux depuis le 18e siècle jusqu'à nos jours. Et après, j'ai plein d'autres casquettes parce que je suis très impliquée sur le territoire, sur des thématiques d'entrepreneuriat au féminin notamment et de transmission du savoir avec les jeunes parce que je trouve que c'est important et qu'ils ont tous besoin d'entendre des parcours différents pour se faire une idée de leur propre parcours.
Bah écoute, on va en parler tout au long de la conversation, parce que c'est vrai que tu as un parcours très riche, une histoire très riche. Donc, on est parti.
Oui, c'est parti.
Allez. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Qu'est-ce que tu faisais avant de créer Échoppe de la Lune?
Alors, en fait, moi, je viens de Bayonne. J'ai fait des études très académiques, bac, spé mat, option latin... un peu la bonne élève, mais pas trop, voilà, qui veut juste cocher les cases pour avoir le plus de portes ouvertes. J'ai grandi dans une famille qui me disait tout le temps, fais les choix qui te permettent d'avoir le plus de portes ouvertes, comme ça, ça te laisse le temps de savoir ce que tu veux faire, sans trop te fermer de choses. Donc j'ai eu un parcours très académique, j'ai fait une classe préparatoire aux écoles de commerce. J'ai fait ensuite une école de commerce qu'on appelait Subdeco à Tours. Donc du coup, je suis partie en Touraine. Et là, pareil, j'ai choisi l'apprentissage parce que du coup, ça m'ouvrait plein de portes. Et j'ai choisi l'apprentissage en grande distribution chez Auchan parce que la plupart des offres d'apprentissage étaient par exemple dans les banques ou la grande distribution. Et la grande distribution, encore une fois, m'ouvrait énormément de portes. Donc du coup, je suis partie là-bas. Et j'ai été passionnée par le côté opérationnel, rendre service aux clients, vendre des produits en expliquant d'où ça vient. Et j'ai été un petit peu frustrée, justement, du côté, les gens viennent en magasin, ils se servent par rapport à leurs besoins ou leur curiosité naturelle par rapport à un packaging d'acheter un produit. Mais finalement, ils savent pas pourquoi ça a été créé comme ça, quels ingrédients ont été choisis, qui est derrière cette idée. Et j'étais un peu frustrée de ça. Donc, je suis partie en centrale d'achat chez Auchan. J'ai eu la chance d'avoir l'opportunité d'avoir des managers qui ont cru en moi. Et je suis passée à 23 ans chef de produit chez Auchan. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un catégorie manager qui te dit « Anna, la glace aux cookies, ça commence à être vraiment tendance dans les pays d'Europe, aux États-Unis. Et je pense que vraiment, il faut qu'on l'ait à la gamme. » Donc, je lance un appel d'offres. À toute l'Europe en disant bonjour, on est au champ, on voudrait faire une glace aux cookies, on voudrait que le prix soit à peu près dans ces eaux-là parce que par rapport au marché, on veut pas dépasser, on voudrait tel grammage ou tel foisonnement, parce que ce qui est hyper intéressant dans la glace, c'est pas l'objet de cet échange, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, plus on va injecter de l'air et plus du coup on aura la même quantité, voilà, ça va être foisonné, du coup on va avoir moins de matière dans le pot, donc du coup il y a ce ratio aussi foisonnement,
ce qui est frustrant aussi,
exactement, et en même temps c'est frustrant, et en même temps quand on fait des études, enfin nous on faisait beaucoup d'études à l'époque, qui disaient qu'en fait à l'aveugle les gens préféraient des glaces aux crèmes glacées. Et en termes de valeur nutritionnelle, en termes de qualité produit, une crème glacée est bien au-dessus. Mais pourquoi ? Parce que des glaces qui étaient peu foisonnées, type Häagen-Dazs, qui sont délicieuses, il faut patienter 10 minutes.
Pour oui, que, c'est vrai, voilà. Pour qu'elles reviennent un peu à température et que tu puisses à travailler.
Voilà, donc les gens avaient tendance à préférer les glaces, qui sont du coup de la poudre de lait avec de l'huile, plutôt que de la vraie crème, parce que finalement, ils adoraient le fait de pouvoir ouvrir leur peau et sur un coup de tête, se servir directement. Ouais, et puis finalement, une glace du coup qui fond beaucoup plus qu'une crème glacée qui va prendre plus de temps en bouche aussi. Donc bref,
passionnée. Donc c'était ça ton travail, finalement, c'était les prémices de ton sourcing et de ce que tu vas faire
exactement.
Après avec Échoppe de la Lune.
C'est exactement en fait. Ça. En fait, j'aurais pas pu créer mon entreprise sans avoir ce parcours-là, parce que du coup, j'avais été picousée du côté rendre service aux clients, comprendre ses attentes, et puis ensuite j'ai été du côté fournisseur à co-créer des produits avec des fournisseurs pour répondre aux attentes des clients.
Et qu'est-ce qui fait que qu'un jour tu te dis ça me convient plus?
Et bien c'est qu'en fait j'avais l'autre frustration, c'est-à-dire maintenant je suis du côté des fournisseurs, je sais pourquoi on a choisi, je sais que c'est de la bonne qualité, et finalement malgré le packaging j'étais frustrée de ne pas pouvoir parler avec le client et de lui dire non mais attends c'est ouf ce qu'on a fait, c'est franchement trop bien, non mais rends-toi compte de la qualité de la fraise qu'on a mise à l'intérieur, il n'y a pas ça sur le marché,
rends-toi compte du travail qui a été fait derrière aussi.
Et du coup j'étais frustrée de ça, et finalement j'avais envie, alors au fond de moi mais sans me l'avouer, hein, j'avais cette frustration de ça.
Donc, au final, qu'est-ce que tu décides ?
Je décide de rien du tout. Mon conjoint est muté à Bordeaux. À l'origine, j'étais du Pays Basque et je travaillais à Lille pour Auchan. Donc, du coup, Bordeaux, c'était un bon entre-deux entre les deux belles-mères, c'est-à-dire Bayonne et Nantes.
D'accord, voilà. Nantes.
Donc, Bordeaux était le bon entre-deux pour être pas loin de la famille et en même temps pas collé, donc pas obligé d'aller au repas du dimanche. Voilà, je vous aime. pour ma mère et ma belle-mère, hein, les deux. Hein,
oui,
pareil,
bien sûr,
hein,
les belles-mères. Oui.
Pas de jalousie. On les met au même niveau. C'était le bon entre-deux. Et donc, en fait, j'étais au chômage parce que je ne trouvais pas à Bordeaux de travail, enfin de poste disponible à mon âge avec mes responsabilités. Parce que Auchan avait su...
Croire en moi.
Ouais. Et en fait, à 30 ans, je gérais un budget de 90 millions d'euros.
D'accord.
Et j'avais une jolie rémunération. Et quand je suis arrivée à Bordeaux...
Il n'y avait pas le pendant
Il n'y avait pas du tout le pendant. Et puis on me disait, mais attends, à 30 ans, tu faisais ça ? Lol. Et moi, je disais, non, mais en fait, j'ai des compétences, on a cru en moi et on a développé des compétences. Donc, c'est normal que je cherche la même chose,
Bien sûr.
Donc, ne trouvant pas, je me suis dit, je vais pas aller... j'ai la chance d'avoir Pôle emploi qui m'accompagne au quotidien et de pas être stressée financièrement, de devoir prendre n'importe quel métier.
On va dire que tu as 2 ans. Voilà,
exactement. Ce qui est moins le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était le cas. Donc, j'étais détendue. J'avais une enfant de 18 mois. Donc, j'étais pas prioritaire pour les crèches. Parce que je ne travaillais pas.
Ça,
donc du
connais.
Coup, j'étais pas prioritaire.
Ouais.
Voilà. D'ailleurs, il y a maintenant quelque chose qui est génial qui s'appelle Le Cocon à la Villa Maria à Codéran. Du coup, d'une crèche adossée à un cowork où tu peux mettre ton enfant, t'as une place en crèche et en même temps, tu peux travailler, être à côté.
Projet.
Exactement. Moi, j'ai pas eu, il y avait pas ça à l'époque et du coup, je devais rester à la maison et en fait, j'en parlais encore récemment, j'étais déprimée. Je pleurais tous les jours. Pourtant, j'adore ma fille, mais je ne voyais pas les moments de qualité et je ne voyais pas la richesse de ces moments-là de partage avec ma fille. Je me disais juste, en fait, j'ai un cerveau qui est en train de bouillir, qui a envie de faire plein de choses et je suis bloquée à la maison.
Ouais.
Donc ça a duré 4-5 mois jusqu'à ce que mon oncle...
Donc le fameux...
Ouais, mon oncle d'amour... Fabien Pédelaborde, qui est architecte et décorateur d'intérieur à Bordeaux. Lui, il est passionné justement par tout. Bah, on vient de la même famille, hein, une famille qui dit je t'aime en mangeant.
Alors donc, justement, voilà. On va rebondir un petit peu là-dessus parce que j'aime bien après savoir par rapport à mes invitées, surtout quand elles sont pas vraiment dans la cuisine, on va dire.
Oui.
Est-ce que justement, donc tu es arrivée sur le marché de la food, hein, on va dire, d'abord par la GD, puis après donc avec ton épicerie fine, mais j'imagine très bien que dans ta famille, tu as quand même une appétence pour tout ce qui est gastronomie et culinaire.
Totalement. Alors, je vais le dire là, il va être fier, il est comme un coq, mais mon père avait été le plus jeune cuisinier de France de 100 ans, parce que donc mes grands-parents avaient une brasserie et donc mon père était tout le temps en cuisine. Et donc tout petit, il était photographié par le Sud-Ouest en tant que tout petit avec sa petite blouse blanche.
Mignon.
Trop mignon, oui. Ça ne se fait plus. On n'embauche pas ses enfants. Je tiens à dire
moche.
À tout le monde, c'est moche. C'est pas bien. À part s'il cuisine vraiment bien.
Voilà.
Et voilà. Du coup, mon père a toujours aimé cuisiner. Pas de la cuisine du quotidien, mais de la cuisine de réception. Et c'est ça qui est intéressant.
Donc, à la maison, vous aviez gastro tous les soirs?
Pas du tout, justement.
Non,
c'est
voilà.
Que la cuisine du quotidien, pas du tout.
Ça n'intéressait pas,
par contre,
vous receviez.
Exactement. Et c'est toujours le cas. Quand il reçoit, c'est lui qui fait tout. Enfin, tout. Non. Il y a quand même beaucoup ma mère à côté, mais ma mère est plutôt obligée d'être commis.
Ah, ça doit être
alors que c'est elle qui fait la cuisine tout le reste du temps, mais par contre quand c'est la réception c'est moi qui l'ai fait le gratin. Voilà, donc je rigole, je l'aime beaucoup, mais voilà, et son gratin est très bon forcément en mettant 1 litre de crème entière. Il est bon.
C'est le secret.
Il est bon.
Évidemment.
Il est bon. Voilà. Et il peut débattre énormément pour expliquer comment il faut frotter la côte de bœuf et combien de temps de cuisson. Et je ne me moque pas parce que c'est grâce à ça que moi aussi je peux briller par mes côtes de bœuf.
Eh ben voilà.
Il y a une vraie technique familiale. Mais bon, tout ça pour dire que
la
cuisine chez nous c'est important et surtout donc du côté paternel, c'est des repas. En tout cas, c'était aux grandes apogées de la famille, des repas qui ne s'arrêtent pas et surtout ma grande tante qui est pour moi comme ma grand-mère, qui si tu ne te resserres pas je crois qu'il y a vraiment un problème.
C'est vrai.
Donc du coup, il y a un moment à l'adolescence où je disais oui, je me resserre et je faisais un bruit dans le plat, je reposais que elle dès que j'avais quand j'avais dit oui, je me resserre, c'est bon, elle tourne la tête et elle s'occupe d'un autre candidat. C'est et en fait, non, moi
est-ce qu'elle le sait maintenant?
Je l'ai dit mais en fait, c'est ces gens-là qui je dis non, vraiment je n'en peux plus, vraiment Tati, j'en peux plus et elle fait
Allez.
Et le aller. Et en fait, elle sait que vraiment j'en ai envie, que j'en ai pas besoin, mais que j'ai mes faussettes qui arrivent et qui disent j'avais dit non, je me resserre pas, mais c'est trop bon. Elle me connaît tellement par cœur que t'as l'impression qu'elle vraiment, elle dit à l'intérieur de toi, elle fait t'en as envie. Mais vas-y, oui, c'est vas-y. Le petit diable
oui,
qui est dans un truc.
Exactement.
Et toi, t'es là, non, summer body. Et elle fait, vas-y, on n'a qu'une vie. Ok, je vais reprendre de ton riolet ou de peu importe.
Génial.
Et donc, non, voilà. C'est,
donc,
et c'est encore. Et ouais. Aujourd'hui, enfin voilà, elle a plus de 80 ans et je suis allée encore la voir cet été et elle m'a quand même fait une dame blanche en mode, elle a fait fondre son chocolat, elle a fait torréfier des amandes effilées.
Wow.
Tu te dis vraiment, c'est toujours le côté je reçois et même si le temps passe et que je suis affaiblie, non.
Je le fais par amour.
Voilà.
Voilà. C'est vraiment une question de partage.
C'est ça. Et du coup, c'est là-bas que j'ai vu ma grand-tante que j'ai vu faire les canards. Et donc,
ouais.
Du coup, j'étais frustrée de moi de ne pas avoir appris et puis qu'elle soit trop âgée pour m'apprendre.
Mm-hmm.
Donc, du coup, je suis allée là récemment à Madiran voir des gens qui font le canard et faire avec eux pour faire mes conserves parce que je suis vraiment adepte de manger moins mais mieux et de rien. Enfin, moi, j'adore faire moi-même.
Donc
je fais pas forcément toujours bien moi-même. Il y a des
j'ai fait ma bière
moi-même et j'ai décidé d'arrêter. Par exemple, je l'achète.
Oui.
Voilà. Mais j'aime.
Mais tu es curieuse en fait.
Ah oui,
voilà,
totalement.
C'est la curiosité qui t'anime, voilà. Mais au niveau culinaire et puis même sur d'autres sujets. Et donc voilà. Donc la cuisine vraiment très important. Donc on va revenir à la genèse de l'épicerie fine. Donc ton oncle.
Donc mon oncle vient dîner à la maison. Donc comme d'habitude, il y a toujours un repas. Il vient dîner à la maison et en fait il me parle, il m'amène un pot de moutarde Louite et il me dit ah oui, c'est sympa. Il me dit oui, mais tout le monde a oublié cette marque là, c'était de Bordeaux, j'ai vachement du mal à le trouver, je le trouve chez un petit boucher, nanana. Et soit. Et il me dit, mais tu sais qu'il y a plein d'autres marques à Bordeaux, de Bordeaux.
Tu la connaissais déjà cette marque?
Non, alors la moutarde Louite, pas du tout.
Okay.
Et il me dit, mais tu sais Cacolac, c'est de Bordeaux. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, mais la crème Joc.
On le sait pas, c'est pareil.
Mais, oui, et il me dit, mais la crème Joc aussi. Et la crème Joc, pour le coup, c'est un vrai souvenir à moi de... Vrai souvenir à moi, ça se dit pas. Mais c'est un vrai
c'est vraiment
exactement un souvenir d'enfance. De ma grande tante qui me faisait la crème Joc et chaude et je soufflais, il y avait une petite membrane au-dessus et je venais racler la membrane et ressouffler, donc je pouvais mettre 3 heures à manger ma crème Joc. Et quand il m'a dit que c'était de Bordeaux, je me suis dit c'est incroyable. Il me dit non mais moi je rêverais d'avoir une épicerie où on trouverait tous les produits de Bordeaux de manière historique. Ça reste là. Et moi, du coup, je me mets pendant la sieste de ma fille à faire des recherches parce que j'étais hyper intriguée de ces marques que je ne connaissais pas.
Toujours ta curiosité qui t'anime.
Oui,
voilà.
Totalement.
Donc,
et donc, je me dis, bon, mon seul créneau, c'est la sieste de ma fille. Donc, on va profiter de cette sieste pour lire notamment les marques d'Aquitaine d'Olivier Landex que j'avais trouvé à la bibliothèque. Et là, je découvre Alain Flelou, le Milborne. Enfin, vraiment plein de marques du Sud-Ouest. Et 2 semaines après ce repas, mon oncle m'appelle pendant que moi je faisais mes petites recherches, mais à titre de curiosité,
oui,
en disant
juste sur ta culture juive,
oui, en disant ah ben oui, mais il y a Marie Brizard, c'est génial, et il y a ça. Et en fait, mon oncle m'appelle 2 semaines après et il me dit, je me souviendrai toujours, il m'appelle, il me dit coucou, c'est ton associé, je t'ai trouvé un local. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Et il me dit, j'ai parlé de toi à un client à moi, Gonzague Lurton, et il veut te rencontrer. Bon, du coup, il faut trouver une nounou pour ma fille, hein, parce que clairement, j'étais...
Pas de crèche.
Voilà. Donc, je sais même plus comment je me suis débrouillée, mais ma fille a été gardée. Et par de la famille. J'ai de la famille qui a gardé ma fille. Et,
donc, tu y vas, tu sais pas de quoi ça va se parler. Enfin, de
exactement.
Quoi vous allez parler. Tu y vas vraiment la fleur au fusil.
Oui. Et en fait, j'arrive là-bas. Et donc, Gonzague, qui est adorable, quelqu'un de vraiment qui a un vrai charisme et qui est réservé. Donc, du coup, ce genre de personne... complètement à l'opposé de moi, qui parle beaucoup et qui d'une certaine manière peut-être parle pour se rassurer ou a peur du vide, comme beaucoup de personnes qui parlent beaucoup, et lui non, qui ne parle pas
qui
et
écoute.
Du coup qui écoute, et beaucoup de non-dits et beaucoup de paroles sans parler, et donc moi pas habituée à ça.
Et déstabilisant.
Donc, oui, totalement.
Ouais.
Surtout que tu vas voir, c'est jusqu'au bout. Hein. Il fait visiter son château, Durfort-Vivens, trop beau. Bon, évidemment, en plus, c'était mon oncle qui avait refait le château. Donc, du coup, mon oncle était content de me montrer les travaux qu'il avait faits, parce que quand on est archi-décorateur d'intérieur, on décore les intérieurs de ses clients. Donc, on ne vient pas montrer à sa famille les intérieurs qu'on a faits pour les autres.
Donc là, c'était vraiment les chais.
Exact. Mais du coup, on visite son chais et tout. Mais du coup, j'étais heureuse de voir finalement le travail de mon oncle. Et là, on visite le chai. Et en fait, au milieu du chai, une table. Et là, je fais OK. Donc, je savais qu'on allait déjeuner. Mais je ne pensais pas que c'était une table avec des spots en plein milieu des chais magnifiques. Et puis, un chef qui était venu pour l'occasion et qui nous fait à manger au milieu du chai. Et là, franchement, c'était trop bon. Voilà, c'était fin. C'était loin de mon quotidien de mère au foyer, qui n'a plus de boulot et qui est frustrée de ça et qui pleure tous les jours à cause de ça. Et donc là, on parle des marques de Bordeaux. Vraiment, on parle. Eh oui, le Cacolac et Marie Brizard. Et vous saviez que les Armands du Médoc, en fait, c'était un accident, qu'ils faisaient des bâtonnets pour les chocolatines et puis que c'est parti en zigzag en forme de serment de vigne. Ah, mais non, mais je savais pas. Ah, mais non, mais c'est génial. Il y a plein d'histoires et tout. Point. On déjeune et puis je vais vous montrer le local. Oui, bon, d'accord.
Donc on repart
là, repart dans un local qui est juste à côté, un local commercial. Donc on arrive dans le local qui est déjà joliment aménagé. C'était une cave à vin avant. Et là, ils parlent entre eux, ils font le tour. Je me dis, bon, bah, c'est un client qui parle avec son archi.
Oui, il a un projet. Peut-être qu'il a un projet pour lui. Toi, tu es là, bah, ton nom.
Je me disais, je me verrais bien là-dedans.
Sans te projeter, quoi.
Et pour puis, toi, bah, surtout qu'on n'en parle pas.
Oui, voilà. Et puis, c'est pour toi, tu pars du principe que c'est pas pour toi, quoi.
Bah, je me dis, s'il me fait venir, c'est peut-être pour moi. Mais pourquoi il m'en parle pas?
Bah oui. Monsieur.
Pourquoi vous parlez de Wi-Fi, d'alarme, de peinture? Il parle. Il fait oui, ce serait pas mal ce Pantone-là pour tel mur. On pourrait faire cette couleur-là. Je suis là en mode, bah, en fait, on.
Et à aucun moment, on te dit, qu'est-ce que t'en penses, Anna?
Oui, non.
Ok.
Et donc, du coup, on repart. Et on repart, et dans la voiture, mon oncle me dit, bon, t'as compris ce qui s'est passé, là?
Ah bah, non.
On n'a pas du tout la même moyen de communication, donc non, c'est
verbalise, à un moment donné.
C'est compliqué. Non, mais en fait, lui, il est habitué, c'est son client. Oui. Donc, en plus, comme mon oncle peut avoir, du coup, la double casquette de « je parle beaucoup », et aussi « j'écoute beaucoup », parce que c'est son métier, et qu'il connaît parfaitement ses clients, parce qu'il travaille... mais surtout qu'en plus, il travaille depuis des années. Ses clients sont ultra fidèles. Donc, du coup, il connaît les modes de communication des uns et des autres, et il arrive à comprendre ce qui se dit entre
toi,
les lignes.
Non, c'est pas le cas, en tous les cas.
Ah, ben non.
Voilà.
Et donc, du coup, il me dit, ah, ben, il te loue le local. Je fais, alors, dans ces cas-là, c'est bien gentil, mais à quel montant? Enfin, je veux dire, j'ai pas de montant de loyer, là. Je suis... au chômage. Si je dois me projeter dans une épicerie, il faut que je sache si c'est viable. Ouais, donc il faut que je calcule,
concept,
il faut que je il faut que j'ai une idée. Et en fait, là du coup, mon oncle me dit, ah ben, ça, je sais pas, faudra voir. Bah oui, mais en fait, si je viens, c'est pour ça.
C'est un peu à la Wallégane.
Voilà.
Quoi,
donc du coup, c'était assez rigolo. Et donc ça s'est fait très vite parce que du coup, on était en janvier et on décide de louer ce local de mai à octobre.
Donc j'avais pour la saison.
Pour la saison, et oui, parce que du coup, j'aimais pas trop moi le chemin pour aller à Margaux, le chemin de la Barde qui peut être vite dangereux. En fait, on voit souvent des voitures dans le fossé. Il y a souvent du brouillard l'hiver. Donc c'est Moi, j'étais pas évidemment qu'il y a un autre chemin. Je le sais, mais celui-là étant le plus court de chez moi à là-bas, j'étais pas très à l'aise. Donc du coup, j'avais dit de mai à octobre. Ça fait 6 mois.
Ça te laisse le temps de voir pour lancer le projet.
Oui,
voilà.
Exactement.
De prendre la température, peut-être aussi.
Oui, tout en étant hyper à l'aise au niveau des risques parce que je touchais mon chômage de Pôle emploi. Et franchement, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours crié sur tous les toits. Pour moi, c'est le meilleur incubateur de France. Si on n'était pas détendu financièrement sur le fait de pouvoir. Oser rêver, oser tester des choses sans avoir peur de s'écraser, c'est un parachute, quoi, pour atterrir en douceur. Et donc j'avais ça. Et il y a quelqu'un qui m'a dit le seul risque que tu prends, c'est que ça marche.
Oui, exactement.
Et du coup, je me suis dit, carrément, moi j'adore la nourriture, j'achète un peu de stock, si je le vends pas, je l'offre ou je le mange. Donc, j'ai pas grand chose à perdre. Et le local m'était clairement loué pour une somme qui est dérisoire par rapport à ce qu'on mettait derrière. Ouais. C'était plus une volonté de Gonzague de dire, bon, moi, ce local, pour l'instant, je sais pas trop quoi en faire, mais je voulais le récupérer parce que je voulais pas qu'un concurrent le prenne. Et je veux que quelqu'un, du coup, y mette de la vie. Et cette jeune fille, elle a un projet qui est sympa sur des marques qui me parlent. Et
ça me coûte.
Voilà, allons-y. Donc, moi, finalement, je payais les frais structurels de voilà, d'entretien du local, et je lui donnais une vie. Et je donnais une vie à cette petite place de Margot qui, du coup, avec la fermeture de la cave à vin auparavant, devenait un peu tristoune, quoi.
Et donc, comment ça se passe ? T'as du monde qui vient ? Tu sens que ça prend ?
Oui, ouais, ouais. Ouais. Bah, déjà, ce qui était hyper intéressant, c'est que j'ai contacté d'abord une ancienne connaissance d'Auchan. Qui m'a mis en contact avec Jean-Philippe Ballanger, le patron de Joc. Et en fait, je l'ai appelé en lui disant « J'ai ce projet, j'y crois, ça va être génial. J'étais chez Auchan avant, donc j'ai déjà le côté connaissance du client et j'adore le client. Et de l'autre côté, je sais travailler avec les fournisseurs et je sais acheter au bon prix pour mes clients. Donc en fait, j'ai toutes les cordes à mon arc, go !» Et en fait, ça a tout de suite matché entre nous. Il m'a dit « Mais moi, je suis en train de lancer le whisky de Bordeaux qui s'appelle Moon Harbour, qui veut dire le port de la lune. Et toi, tu veux appeler ta boutique Échoppe de la lune. On a les mêmes valeurs. Go, je vais mettre les produits chez toi. Okay. Pas de problème. Et je vais t'aider à te donner les contacts de mes copains qui font des produits qui pourraient être bien pour toi. » Parce que lui, il se dit « Je suis bordelais, j'ai une entreprise bordelaise agroalimentaire, donc du coup, j'ai tous mes confrères que je connais très bien. » Et en fait, il y a une jeune fille qui a 30 ans et qui a de l'énergie à revendre et qui veut nous mettre en valeur. Et banco. Donc voilà. Donc
en
j'ai commencé comme ça.
Territorial, il n'y a pas mieux, quoi.
Bah, en tout cas, pour lui, il disait bon, bah, c'est cool. Voilà, j'ai quelqu'un qui peut tenir la route et qui a de l'énergie à revendre. Donc il a misé dessus. Et encore une fois, je pense que l'important aussi dans notre parcours, quel qu'il soit, c'est d'avoir autour de nous des gens qui croient en nous. Et moi, je me suis toujours entourée, je pense, des gens que j'ai sentis bienveillants. Et encore aujourd'hui, hein, j'ai des gens, voilà, c'est des mentors. Je sais que même si du coup dans mes mentors, bah, ils n'ont pas forcément tous les mêmes conseils, mais je sais que tous leurs conseils, ils sont pour mon bien-être, ouais, dans mon intérêt et vraiment sans attente, sans retour, quoi.
Et donc là, t'as ces contacts, enfin,
oui, voilà,
contacts bien solides.
C'est ça. Et en 3 mois, je crée l'identité graphique, le nom, les fournisseurs, les prix. Je mets en place les premiers. Enfin voilà, la boutique en 3 mois.
Et pourquoi Échoppe de la Lune ?
Parce qu'en fait, une échoppe, c'est une petite boutique, et c'est aussi le nom des maisons typiques de Bordeaux et de la Lune pour le port de la Lune. Et du coup, c'est la petite boutique du port de la Lune. En même temps, c'est la maison du port de la Lune. Et je voulais... Enfin, j'ai adoré ce nom dans le sens où... ce que j'aimais bien, c'est que les Bordelais, eux, tout de suite, une échoppe, ça leur parle. Le port de la Lune, pour la plupart, ça leur parle. Et je voulais ce sentiment d'appartenance parce que la boutique, je l'ai faite pour moi et pour les gens qui habitent à Bordeaux. C'est pas une boutique que j'ai créée pour des touristes, même si aujourd'hui, les touristes adorent la boutique. Mais c'est la boutique des locaux. Et encore aujourd'hui, j'ai 70% de clients locaux. Et c'est ma grande fierté parce que ce que je voulais, c'était un endroit où quand on rentre, on se sent un peu comme à la maison, ça nous rappelle un peu notre grand-mère. Il y a de la faïence au mur, il y a des souvenirs gourmands par les produits qu'on retrouve. Voilà, les sarments à l'orange, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Et ils détestent parce que leur grand-mère, elle avait toujours les sarments à l'orange et qu'ils n'aimaient pas trop ça.
Ils faisaient le petit béco, tu sais.
Voilà, c'est je trouve que... et le cacolac, tout le monde a
ça,
une...
C'est la madeleine de Proust. C'est...
Oui, mais c'est ça que j'aime, c'est que les gens me disent « Ah, mais moi, quand j'étais petit, j'habitais à la Bastide et puis on me donnait un cacolac à l'usine qui était même pas encore encapsulé. Ce goût de cacolac frais, je l'ai jamais retrouvé. » Je dis « Bah oui, vous avez bien de chance, personne ne peut le retrouver. » Ou des gens qui me disent « Ah, ben la crème Joc, c'est plus comme avant. » Je dis « Bah, la recette n'a pas changé. En revanche, votre lait a changé. Vous faisiez de la crème Joc quand vous étiez petite avec du lait frais qui venait de la ferme. Maintenant, on est sur du lait pasteurisé et avant, vous preniez du lait entier, et maintenant c'est du lait demi-écrémé que vous prenez. Si vous prenez du lait entier, ça sera pareil.
De toute façon, exactement.
Exactement. Donc c'est, voilà, c'est ce lieu-là que je veux, où on n'est pas qu'une épicerie, et c'est pour ça qu'à la différence de la grande distribution où j'ai fait mes armes, on ne met pas des produits en rayon et laisser les gens comme ça vaquer.
Oui, en étant juste des acheteurs d'étiquettes, on va dire.
Oui, nous on veut passer un moment avec les gens.
Et donc tu es là, tu as Margot.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que tu vas switcher, que tu vas dire, écoute, je veux déménager et je veux trouver un autre local. Et comment, oui, est-ce que tu te retrouves sur les quais ?
Alors en fait, c'est que j'ai toujours eu envie d'aller sur les quais. Dès
pourquoi
le début, mais parce que c'est le port de la Lune. C'est pour moi. Et alors en plus, c'est incroyable, c'est que quand on a créé l'identité graphique, donc j'étais chez moi, hein, on crée l'identité graphique, on va à Margot. Et en fait, 6-7 mois après, on se retrouve sur les quais. Et la vue de ma boutique, c'est l'identité graphique que j'ai écrite avant.
C'est énorme.
Et alors, c'est
sans
hyper...
l'avoir visualisé auparavant.
Ben non, c'est juste que je me disais, j'adore ce port. Et en fait, j'ai toujours habité à côté de la Garonne. Et j'adore ce port, j'adore cette vue. Et pour moi, c'était cette vue qui est une vieille gravure de Bordeaux que j'ai retravaillée avec mon oncle, encore une fois. Et c'est vraiment, pour moi, l'essence de Bordeaux, c'est ce port qui a fait la richesse de la ville, qui a fait le commerce de toutes les denrées alimentaires. Et donc, dès le début, j'ai contacté la direction de ce qu'on appelait à l'époque le Quai des Marques, qui m'a dit « Alors oui, c'est vachement sympa, votre idée, mais nous, on s'appelle le Quai des Marques. Et vous, vous n'êtes pas une marque, vous n'êtes rien. Même si vous êtes sympa, mais vous n'êtes rien.
Ouais. » Vous avez plusieurs donc, marques, mais vous n'êtes pas une marque.
Exactement. En fait. Et puis surtout, mais vous, non mais vraiment, vous, ah ouais. Vous n'êtes rien dans le sens où vous avez une idée, ouais. Mais on ne sait pas si votre idée elle est viable, on ne sait pas si vous faites du chiffre, et nous on a des loyers, il faut que vous payiez votre loyer, donc on ne peut pas y aller comme ça la fleur au fusil.
Alors comment ça s'est passé ?
Eh bien ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont dit, franchement par contre on adore votre concept, donc on reste en contact, mais allez à Margaux. Je dis bon bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire ? Parce que moi j'hésite, on m'a proposé un truc à Margaux, mais j'aimerais bien venir chez vous aussi. Ils me disent non, mais allez à Margaux et faites vos armes et on vient vous voir. Et la direction est venue me voir à Margaux. Et ils ont adoré le concept, le fait que ça soit rangé par l'histoire, la manière dont je leur vendais les choses et le fait que je leur vendais le projet de changer le Quai des Marques. C'est-à-dire que je leur disais, moi j'habite à côté et ce qui me manque, c'est ça. C'est qu'il n'y a que des boutiques qui sont des marques connues, les gens y vont pour telle ou telle marque, mais il n'y a pas un moment donné où vous apportez une expérience à vos clients. Et moi, ce que j'aime en tant que cliente, c'est arriver dans un univers où on me transporte ailleurs, où on me fait oublier mes soucis, on me fait apprendre des choses, parce que moi, je retiens les histoires que si c'est autour de la nourriture. Et donc du coup, j'ai envie de ça, en tout cas pour moi, et je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient ça. Et donc du coup, je leur ai expliqué aussi que j'étais à Margaux et qu'à Margaux, il n'y avait pas énormément de passages, mais que je faisais tant de chiffres d'affaires. Et ils m'ont dit, ah bah oui, bah c'est pas mal, du coup, si tu fais tant à Margaux, bah ça veut dire que ça peut marcher sur les quais. Donc eux, ils ont clairement rationalisé. Mais il y avait ce côté, la directrice, qui est toujours la même directrice, Magali, elle croyait en moi humainement et au projet. Et en même temps, elle savait très bien qu'au-dessus, elle avait des bailleurs qui... Enfin, c'est la bailleur, elle est directrice du centre, mais elle savait qu'au-dessus, on allait lui demander des chiffres de la renta. Exactement. Donc, elle avait les deux côtés de son business qui étaient je travaille l'humain, mais il faut aussi que je rassure ma hiérarchie. Donc, du coup, elle a monté un dossier, elle est partie à Paris pour vendre le projet et elle a réussi à faire en sorte qu'on soit, du coup, la première boutique indépendante sur le Quai des Marques en novembre 2017. Donc, moi, je suis passée de micro-entreprise toute seule à SARL, de j'ouvre un peu quand je veux à...
Je dois ouvrir tous les jours.
Alors, parce que moi, j'ai toujours été adepte du « je suis ouvert tous les jours », c'est-à-dire que quand je dis « j'ouvre un peu quand je veux », c'est non, j'ouvrais tous les jours à Margaux, ouais. Parce que je suis partie du principe qu'au début, il faut ouvrir tous les jours. Et c'est en observant la clientèle qu'on va savoir quel jour il faut ouvrir
quand
ou non.
Donc, tu ouvrais 7 jours sur 7 ?
Oui, au début, oui.
Du lundi au dimanche ?
Oui.
Ok.
J'ouvrais 7 jours sur 7 au début et j'ai petit à petit pendant 2 semaines, après j'ai adapté, ok, tel de week-end c'est pas intéressant d'ouvrir le dimanche, là je pense qu'il va y avoir du monde, c'est un week-end de 3 jours donc du coup j'ouvre le dimanche, enfin voilà, une analyse vraiment de ma clientèle, mais tout s'est fait par l'expérience et je dis souvent aussi, moi j'ai pas fait de business plan, pourquoi ? Parce que c'est allé très vite et parce que j'ai senti les choses. Parce qu'il y avait Pôle emploi qui me donnait un truc. J'avais pas besoin de faire un emprunt parce que j'avais quelqu'un qui me prêtait un local. Finalement, les planètes s'alignaient. Et à un moment donné, c'est vrai que quand les planètes s'alignent comme ça, c'est comme des gros panneaux lumineux qui disent vas-y, 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 vas-y. Et du coup, j'ai fait ok, banco. Et comme je suis plutôt du genre. C'est fou ce que j'allais dire. J'allais dire je suis plutôt du genre à agir avant de réfléchir, mais c'est pas vrai. J'étais comme ça, mais je le suis beaucoup moins maintenant. Je suis quand même très prudente.
Ouais. De par l'expérience, ouais, justement. Ouais. Et donc, en fait, quand on rentre, donc tu ouvres sur les quais.
Oui.
Ton concept, en fait, c'est une épicerie fine musée.
Exactement, c'est où ça. Tout est rangé par l'histoire, avec des panneaux qui racontent l'histoire des marques.
C'était important pour toi ?
Ah bah,
c'était le point de départ, en fait, de ton épicerie.
Bah oui, sinon
d'entrée de jeu, t'avais cette vision-là ?
Alors oui, et je sais même plus. Je pense que la vision, elle était peut-être, enfin, elle s'est faite au travers des échanges avec mon oncle. Ça c'est sûr. Du coup, en fait, je suis tellement picousée par ça que je sais plus si l'idée vient de lui ou de moi.
Enfin,
tu vois, bah ouais,
c'est familial dans tous les cas.
Non, et puis tellement des ping-pong, des échanges, des. Moi, ce que je lui ai dit, c'est mon savoir-faire, c'est le service client et le sourcing produit. La négociation produit, et toi, tu excelles dans le fait de créer des univers. Donc toi, tu me crées un écrin et moi, je le fais vivre. Et donc finalement, il a planté une graine et toi, je l'ai fait grandir.
Toi, tu
exactement.
Fait grandir. Okay.
C'est ça.
Quand le client...
Tout en lui demandant des avis pour tout, parce que pour tous les projets, faire des torchons avec la maison voûtée, tout ça, je lui demande énormément son avis et c'est important pour moi.
Et justement, alors quand le client vient pour la première fois dans ton épicerie,
oui.
Est-ce qu'il s'attend à quelque chose ou pas ? À quoi s'attendre ?
Oui, en fait, il s'attend à trouver des produits de Bordeaux parce qu'avant l'arrivée dans la boutique, on met un panneau en mettant 100% Bordeaux, produits de Bordeaux. Donc, on dessine un cannelé. Les gens, ils savent qu'ils vont trouver des produits bordelais. Et en fait, finalement, le cannelé chez nous, c'est un peu, entre guillemets, l'appât. C'est-à-dire que quand on passe devant la boutique, il y a toujours la tête de gondole, entre guillemets. Alors, la tête de gondole chez nous, c'est au-dessus de barriques de vin, sur une plaque de marbre. Donc, on n'est pas sur la tête de gondole de magasin. Mais disons que la première chose qu'on voit quand on arrive en magasin, ce sont des cannelés.
Okay.
Pourquoi ? Parce qu'on a des gens qui passent devant et qui se disent « Ah, c'est des cannelés, c'est des produits de Bordeaux. » Et en fait, quand ils rentrent, c'est là où on fait « Ouais, mais non. »
Mais non.
Il y a des cannelés, mais pas que. En fait, les cannelés, t'en as que là. Alors qu'en fait, si tu fais tout le tour, t'as plus de 650 références, plus de 100 mètres carrés avec que des produits locaux qui sont incroyables. Et donc, les gens viennent en se disant « Non, mais j'ai compris le concept, c'est des produits de Bordeaux. » Mais finalement, ils sont étonnés parce qu'on leur dit « Oui, c'est des produits de Bordeaux, ça c'est clair. » En revanche, enfin de Gironde, en revanche, la particularité chez nous, c'est qu'on vous fait voyager dans le temps du 18e siècle jusqu'à nos jours. Donc, vous baladez comme dans un musée gourmand.
Est-ce que vous les accompagnez à chaque fois ?
Alors oui, on accompagne.
Est-ce que c'est vraiment quelque chose par rapport au sein de tes équipes ?
Oui.
Qui est super important, c'est-à-dire que quand un client arrive, automatiquement, tu as quelqu'un qui se détache pour l'accompagner.
Alors,
comment ça se passe ?
Pas pour l'accompagner, mais pour l'accueillir. Je fais une grosse différence entre accompagner et accueillir. C'est-à-dire que accueillir, pour moi, c'est tellement important que je sens que mes tripes commencent à s'activer. Cette échoppe, c'est notre maison. Une échoppe, c'est une maison bordelaise. Et chez nous, c'est notre maison. C'est la maison des gens qui travaillent, mais c'est aussi la maison de tous les gens qui rentrent. Donc en fait, comme je l'ai fait quand t'es arrivé, on souhaite la bienvenue. C'est important pour moi, dans l'art de recevoir, dans l'éducation que j'ai reçue, de souhaiter la bienvenue. Et donc, oui, ça c'est clair que par contre, tout le monde va se détacher. On encaisse un client, on peut quand même lever la tête en disant « Bonjour messieurs, dames, soyez les bienvenus ». Juste que la personne, elle sente que dans cette boutique,
elle est accueillie.
Elle est accueillie, mais surtout du coup, elle est... je trouve pas le mot, mais... Elle n'est pas appréciée à sa juste valeur, mais elle est reconnue.
Elle est reconnue.
Elle est reconnue. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire en sorte que les clients sentent qu'ils ne sont pas un client lambda, mais que chez nous, on est content qu'ils aient franchi la porte. Mais c'est sincère. On est content qu'ils aient franchi la porte. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils ont choisi de venir découvrir notre univers et on en est vraiment content. Peu importe s'ils achètent ou pas, en fait. Je suis contente que les gens soient dit « Cette boutique, elle a l'air jolie, j'ai envie d'y faire un tour. » Ils ont choisi de dépenser des unités de temps de leur vie pour venir découvrir quelque chose et à nous de faire en sorte que leur passage soit merveilleux. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, Catherine Barba, qui m'avait fait découvrir une citation de Mère Teresa qui dit « Ne laisse jamais faire venir quelqu'un à toi, dans ta vie, et qu'il reparte sans être plus heureux. »
C'est beau, ça.
Et j'adore cette citation.
Ouais,
et elle
clair.
Elle m'anime énormément et je la partage vraiment avec les équipes pour qu'ils aient conscience au quotidien qu'on a un impact les uns envers les autres et de passer un moment et la manière dont on va parler aux gens et l'échange qu'on va avoir à un moment donné est très important aussi dans l'impact qu'on va avoir sur la journée de la personne. On ne sait pas le bagage de la personne, comment elle vient dans la journée, qu'est-ce qu'elle a vécu avant, qu'est-ce qu'elle vivra après. Mais je veux juste que son passage chez nous, ça soit un moment où elle en garde un bon souvenir. Et parce que je suis persuadée que quand on garde un bon souvenir d'un passage dans une boutique, si un jour on a besoin de quoi que ce soit, on va y repenser.
On va y repenser et on reviendra.
Exactement.
Tu as combien de références dans la boutique ?
650 à peu près.
650
ouais.
Que tu as toutes sourcées personnellement ?
Oui, après, j'ai envie de dire oui et non, parce que de plus en plus, maintenant que les équipes sont bien formées à l'art de bien sourcer, je leur fais confiance là-dessus, de plus en plus. Là, il y a plein de produits qui vont arriver et que je n'ai même pas goûté.
Justement, chaque membre de ton équipe est responsabilisé aussi, enfin, est invité à prendre des initiatives sur ce sourcil.
Ah ben tout le monde goûte tout, il n'y a pas un produit qui n'est pas goûté par tout le monde quand il arrive. Les gens qui arrivent en cours de route, je pense notamment aux alternants, évidemment qu'ils ne vont pas goûter les 650 références.
Ouais.
En revanche, dès qu'il y a quelqu'un qui nous propose un nouveau produit, déjà on cale le rendez-vous avec le fournisseur potentiel sur le moment où il y a le plus de personnes de l'équipe. Comme ça, bah, y a des personnes qui s'occupent des clients et puis ça tourne.
Il y a un nouveau tour,
voilà. Aussi pour pouvoir avoir le maximum d'échanges avec les fournisseurs, parce que du coup on leur pose plein de questions, comment ils font, pourquoi, quel était leur objectif, et chacun va avoir des envies, des questions à poser aux fournisseurs, donc c'est important. Et puis surtout parce que on représente chacun d'entre nous une typologie de clientèle, et finalement il y a des produits par exemple que moi je ne voulais pas dans la boutique et qui cartonnent.
C'est quelque chose que tu avais recherché en les embauchant, justement cette diversité, ou ça s'est fait naturellement?
Ça se fait naturellement, mais parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment ancré en moi, qu'une équipe doit être complémentaire. Après, je pense que ça s'est fait petit à petit, parce qu'au début, j'étais toute seule. Et une des premières personnes que j'ai embauchées, c'est Colombe, qui était dans l'équipe depuis 6 ans. Et fun fact, c'est son dernier jour aujourd'hui. Au bout de 6 ans, elle fait une réorientation professionnelle. Mais du coup, j'ai aussi énormément appris à ses côtés, dans le sens où on est diamétralement opposés. Je vais aimer du blanc, elle va aimer le noir, enfin vraiment, on est diamétralement opposés. Et pour autant, dans le cadre de l'entreprise, il y a une alchimie qui s'est faite, on travaille ensemble et tout est fluide. Et que ce soit elle ou moi en boutique, ça change rien. Il y a des gens qui pensaient que c'était elle la responsable de la boutique. Enfin, voilà, on a créé notre terrain d'entente gris entre le blanc et le noir. Et donc, ça m'a appris aussi à accepter que tout le monde ne soit pas comme moi et qu'au contraire, la diversité était une richesse, mais par contre, à la cadrer. Okay. Donc finalement, tout le monde est dans le même cadre et tout le monde est soi-même dans ce cadre.
Et c'est toi qui donnes le tempo de toute façon.
Oui.
Quels sont les engagements que tu prends quand tu reçois un fournisseur et que tu rentres un nouveau produit?
Fabriqué en Gironde.
Ok.
Oui.
Et ensuite, qu'est-ce que tu recherches quand un fournisseur vient te voir pour proposer un nouveau produit? Qu'est-ce que tu recherches pour ce produit-là?
Alors, nous, on recherche rien, en fait, de base. Les seules choses que je peux dire qu'on recherche, c'est un bon produit et un bon rapport qualité-prix.
C'est quoi pour toi un bon produit?
Un produit qui, quand je le consomme, j'ai envie d'en reconsommer à nouveau.
Ok.
Tout simplement.
Et tu cherches derrière l'histoire, pour le coup?
Oui.
Ouais.
Alors, d'abord, c'est que le produit soit bon. On n'a jamais fait rentrer un produit qu'on n'a pas aimé. Au contraire, tous les produits qu'on a, c'est des produits qui nous ont passionnés. C'est-à-dire les produits, on a fait « Waouh, alors ça, c'est trop bon, c'est incroyable ». Par exemple, je pense aux caramels de la Maison du Caire. C'est des caramels qui ne collent pas aux dents, et notamment des caramels de fruits. Genre, il fait un caramel mangue passion, un caramel framboise, cassis. Hein, il fait du très bon caramel au beurre salé classique, ou du caramel au chocolat, caramel aux cacahuètes. Mais ces caramels aux fruits, c'est quand même incroyable. C'est très peu sucré, c'est en bouche, à mi-chemin entre un caramel et une pâte de fruits. Et c'est incroyable. On l'a goûté, on a fait « Ok, c'est pas donné, mais c'est incroyable ». Et donc du coup, ça fait partie de ces produits, oui, qu'on n'achètera pas tous les jours. Et tant mieux, parce qu'on en percevra encore plus la valeur du fait que ça soit pas quelque chose de quotidien. Mais par contre, on est prêt à mettre ce prix-là pour cette qualité parce qu'elle les vaut. Donc c'est ce que j'appelle un bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire un produit qui n'est pas donné, on doit être aux alentours de 1€ le caramel, donc c'est pas donné. Mais pour un caramel artisanal et ce goût-là, bah oui, je suis prête à le mettre. Et donc cette question, ça a toujours été ça. Ça a été, est-ce que moi je l'achète? Moi, je suis classe moyenne. Je travaille. Enfin voilà, classe moyenne. Je dois rien à personne. Et par rapport à ma typologie de ma manière d'acheter, moi, clairement, je me dis, est-ce que moi je suis capable de mettre ce prix-là? Et clairement, j'ai beau avoir une épicerie fine de produits au top, je vais aussi chez Lidl, je vais aussi chez Leclerc, je vais aussi chez Auchan. Et je parle de ça, pourquoi? Parce que on m'a toujours raconté que ma grand-mère, qui avait la grande brasserie à Bayonne, du temps voilà, où il y avait le restaurant, se cachait un peu pour faire ses courses du quotidien, parce que c'était un peu la honte quand on avait un grand resto et qu'on allait
au supermarché,
exactement, plutôt qu'au hall, voilà. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de dire, bah non, en fait,
on a aussi
moi,
le
ce que
quotidien.
J'explique, oui, ouais. Et puis je suis clairement, quand on regarde ma cuisine, je ne suis pas forcément la meilleure ambassadrice de mon épicerie, dans le sens où, oui, clairement, il y a des produits, je ne peux pas m'en passer. Les bouillons épurs, dont on avait parlé de Sophie, que tu avais déjà interviewée. Les bouillons épurs, ils sont dans mes fonds de placard. Les sardines, j'ai quelques sardines rodelles parce que je les trouve exceptionnelles de temps en temps, mais c'est mon petit plaisir. Ça ne m'empêche pas d'avoir de la belle illoise, voilà, et mes trucs de thon saut piqué, quoi. Enfin, je dis saut piqué, c'est pas forcément,
oui, mais voilà, oui,
parce que j'aime beaucoup la marque de distributeur, voilà. Vous l'aurez compris. Hein. Je sais que derrière la marque de distributeur, il y a aussi des bons produits. Donc, j'ai rien contre ça, mais tout ça pour dire que l'important c'est toujours quelle est la valeur qu'on donne aux choses à un instant T. Et c'est pas parce qu'on achète des carambars qu'on n'aime pas les caramels de la Maison du Caire qui sont incroyables.
Ouais.
Tout est une question de proportion, comme dans l'alimentation et comme dans la nutrition. Tout est une question de proportion, de plaisir et de ratio rapport qualité-prix et de ratio prix-plaisir. Hein.
Ouais, enfin, faut pas se leurrer.
Ouais.
Comment est-ce que tu... Donc, tu me disais, la majorité de ta clientèle, elle est bordelaise.
Oui.
Donc, les touristes arrivent un petit peu. Comment est-ce que tu fais rayonner, justement, ta boutique sur le local pour faire rayonner le territoire, par exemple? Est-ce que tu travailles avec des institutions ou est-ce que c'est toi qui, par le biais des réseaux, parce que vous êtes très actifs sur les réseaux, il y a toujours des scénettes qui sont mises en place, voilà. Comment est-ce que vous travaillez ça?
Alors finalement, je pense que sur les réseaux sociaux, c'est pas tant des clients. Il y a des clients qui nous suivent, c'est-à-dire que dès que je mets une nouveauté, ils disent « Ah, trop bien, j'arrive !» Mais on a quand même une partie de nos clients, je pense, au moins un tiers, je pense, qui vient juste parce que c'est le fun et parce que ça, on change un peu, on dépoussière un petit peu l'image de l'épicerie fine sans le vouloir. C'est-à-dire que moi, j'ai pas encore, je pense, de stratégie communication définie. Je fais tout à l'instinct, au feeling. Donc Instagram, pour moi, ça doit être une partie de plaisir. Et d'ailleurs, moi, sur Instagram, je m'occupe que des reels ou des stories. Je m'occupe pas du tout de ce qu'on appelle le feed, des posts. Je m'en occupe pas du tout. Je l'avais même externalisé à une community manager. Et là, on va le reprendre parce qu'on a une alternante qui veut le faire. Mais globalement, c'est quelque chose que je délègue parce que ça ne m'intéresse pas de faire du feed juste pour, du coup, la stratégie marketing. Moi, ce que j'aime, c'est partager des délires. C'est m'évader du quotidien et dire non mais ça c'est drôle, il faut trop qu'on le fasse, c'est juste moi c'est ma manière de m'amuser. Donc pour moi la communication, à mon sens, n'est que de l'amusement. Donc c'est pas vraiment de la communication, parce qu'en fait de la communication c'est du travail, c'est de la stratégie, c'est penser à sa cible. Moi je suis pas trop là-dedans, et du coup la communication de l'échoppe de la lune, elle se fait comme ce que je sais faire, c'est-à-dire à l'instinct, au feeling. Donc, on a tissé des partenariats. Par exemple, on est partenaire du Parc des Expos, Palais des Congrès, où on va dans des événements pour des professionnels dès qu'ils ont besoin. On est partenaire de l'Office du Tourisme. Du coup, on vend aussi les passes Bordeaux Fête le Vin, parce que ça nous faisait plaisir de les mettre en lumière de notre côté. En fait, c'est juste des histoires de personnes. Je rencontre quelqu'un à une soirée, je trouve la personne sympa, on se rend compte qu'on a des valeurs en commun, et ben on a envie de se rencontrer et de parler. Mais tout simplement comme toi et moi. On s'est rencontrés au Parc des Expos.
Exactement.
Et je t'ai dit, mais j'adore ce que vous faites. J'adore, c'est trop beau. Et puis, j'adore les photos de Sandra. Et un peu en mode groupie. Et du coup, t'es venue à la boutique. Ouais. Et puis, voilà. Et puis, tu m'as dit...
Et moi, je te suivais aussi, hein, de toute façon. Donc,
et puis, du coup, c'est ça.
C'est l'occasion qui s'est créée, en fait.
Ouais, mais c'est ça que j'aime.
Ouais.
En fait, c'est que du coup, quand tu m'as dit, ah, ben, ça me ferait plaisir de t'interviewer pour le podcast, j'ai fait... mais je suis pas sa cible, pourquoi elle fait ça? Et puis après j'ai dit ok, oui, parce que en fait un de mes mantras c'est qui ose gagne, ça c'est clair, que je m'applique au quotidien, mais c'est pas une discipline, c'est vraiment ça fait partie de moi. Et je ne sais pas dire non, donc en fait t'aurais pu me proposer n'importe quoi, j'aurais dit oui, parce que je me suis toujours dit à dire oui, on s'ouvre des portes et ça revient sur le début de notre conversation où mon père m'a toujours dit choisis les éducations qui t'ouvrent le plus de portes. Et en fait, je pense que je dois avoir en moi une peur panique de fermer des portes. Et je m'en rends pas compte. Hein.
Dont on parlait aussi tout à l'heure.
Exactement.
Enfin, c'est un autre débat.
Oui, mais là, je pourrais peut-être m'allonger sur mon canapé parce qu'on est en vraie introspection. Ouais. Mais en fait, je réalise qu'effectivement, quand tu regardes mon parcours aujourd'hui, parce qu'on n'a pas parlé de mes autres casquettes, mais je ne me ferme aucune porte. Et dès qu'on me propose quelque chose, je trouve ça tellement intéressant parce que je suis curieuse que du coup, bah, je banco, quoi.
On vient te chercher, alors, ça veut dire. Est-ce que c'est...
Oui.
Parce que donc, justement, on y arrive. Donc, tu as la partie épicerie, chef d'entreprise,
oui.
SARL, très bien, qui te prend énormément de temps.
Oui.
Tu ne t'ouvres jamais, tu ne te fermes jamais de possibilités. Tu as très à cœur, justement, de faire rayonner le commerce bordelais.
Oui.
La question des femmes, si j'ai bien compris.
Oui, mais pas que.
Mais pas que.
Ouais.
Voilà.
J'aime beaucoup les hommes aussi. Les hommes, je vous aime.
On vous aime.
Ouais.
Mais justement, c'est les autres casquettes que tu as, dont tu vas nous parler, est-ce que c'était une volonté de ta part de mettre ça en place, d'aller vers ce genre de choses, ou est-ce que finalement, on est venu te chercher? Comment ça s'est passé?
Ouais, ça a été, je n'ai rien cherché. Ça a été que des rencontres.
Que des opportunités.
Franchement, je vais raconter parce que c'est quand même très drôle. En septembre 2018... En novembre 2017, j'ouvre la boutique. Début 2017, j'ai une personne de la chambre de commerce qui me propose de m'interviewer parce qu'ils font un reportage sur des jeunes entrepreneurs. Et du coup, comme j'étais inscrite au greffe, elle avait dû voir la boutique. Voilà, j'étais ressortie dans plusieurs entreprises qui étaient ressorties de jeunes entreprises qu'elle était allée voir, elle avait trouvé sympa. Du coup, elle m'a dit, j'aimerais faire une petite interview. Je dis, ok, on fait une petite interview. Et puis ensuite, elle me dit, on va te mettre en une des Échos Girondins. Parce que du coup, 30 ans, petite jeune, dynamique, sourire.
Voilà, produit bordelais, super, tu présentes bien.
Voilà, okay. Enfin, je suis pas naïve.
Oui,
hein.
Oui,
je suis pas naïve.
Sûr.
Je pense qu'à l'époque, c'était pas forcément pour mes compétences et
Sur le business en lui-même.
Oui, je pense que c'était plus l'énergie de la personne qui disait, on va la mettre en page de couve puis on va parler d'une jeune qui se lance.
Bah ouais.
Ok.
Bah, très bien.
Et qui veut dépoussiérer les marques bordelaises, donc c'était plutôt cool. Donc je fais cette une, et ensuite, quelques mois après, je reçois une invitation de la chambre de commerce à venir faire les vendanges de l'aéroport. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a pas de vin à l'aéroport, c'est un aéroport. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je mets de côté. Et à cette époque-là, j'ai une stagiaire que j'adore, Lisa. Et Lisa me dit, qui était stagiaire en communication avec moi, qui dit, non, Anna, il faut y aller, c'est génial, tu te rends compte, c'est la chambre de commerce, tu vas rencontrer du monde, machin. Je fais, écoute, j'ai pas le temps, je te remplace à la boutique, mais tu dis pas non, tu vas à l'invitation. Ok, je vais à l'invitation. Et là, moment incroyable. Il y a des vignes devant l'aéroport.
Oui.
Et en fait, on a vendangé ces vignes.
Énorme.
Et en fait, l'idée, c'était que la chambre de commerce mettait en valeur chaque année quelques personnes sur une thématique. Ça peut être des clubs d'entreprise. Ça peut être là, par exemple, c'était les jeunes entrepreneurs qui avaient fait partie des Échos Girondins. Tu vois, en fait, il y avait une espèce de thématique chaque année pour que ça tourne. Et pour, du coup, c'était une opportunité de la chambre de parler de la chambre et de dire, ben voilà, vous pouvez vous appuyer sur la chambre pour tel et tel service parce que la chambre, c'est la maison des entreprises.
Il y a la dynamisme qui se met en place.
Exactement.
Ouais.
Donc, j'ai trouvé ça vachement bien. Donc, j'y vais. Là-bas, je rencontre l'ancien directeur de l'aéroport avec qui j'ai eu vraiment un coup de cœur professionnel. C'est-à-dire que ce monsieur, un grand homme, Pascal Persson, qui me dit, mais c'est chouette votre concept. Je fais, oui, j'adorerais venir à l'aéroport, mais je ne viendrai pas. Et il me dit, mais avant, pourquoi? Je dis, parce que l'aéroport tel qu'il est configuré, il ne me plaît pas. Et je lui fais toute mon analyse, des lignes d'embarcation, de machin, de trucs, de dire, ben voilà, pour telle et telle raison, moi, je ne viens pas à l'aéroport. Et en fait, je pense qu'il a dû tellement se dire, non, mais en fait, tout le monde me fait du gringue et elle me dit qu'elle ne veut pas venir, que du coup, il me dit, poursuivons la conversation. Et donc, du coup, on a un trajet en bus, il me dit, je viens à côté de vous, on papote, et on papote de tout et de rien, d'acupuncture, de musique classique, enfin vraiment... J'ai adoré, et de management, alors que moi, à l'époque, j'avais genre 2 personnes, et lui, il gérait je sais pas combien de personnes à l'aéroport.
Oui, mais après, t'avais ton feedback aussi.
Oui, mais c'était hyper intéressant d'échanger sur la manière de manager, l'humain, c'était quelqu'un de profondément humain, et donc du coup, voilà, vraiment un échange très enrichissant. Et je rencontre aussi Cécile Despons, qui est actuellement la... Tu la connais ?
Oui.
Voilà, présidente de la CPME, qui était présidente de Femmes Chefs d'Entreprise Bordeaux-Gironde. Et puis, elle me dit « Ah, ben, t'es une femme chef d'entreprise, mais j'aime bien tes valeurs, j'aime bien ta manière de parler. Je suis dans une asso, ça te dirait de venir ? » Et je lui dis « Écoute, c'est bien gentil, mais moi, je suis pas une chaîne de garde. J'ai été approchée par plein d'assos de femmes, enfin de chefs d'entreprise d'assos féminins. Et moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis pour la mixité et il n'y a pas eu de différence du fait d'être un homme ou une femme. Donc non. » Elle me dit « Mais justement, tu as dit les mots qui me parlent et qui parlent à l'asso. Donc, j'aimerais quand même te présenter l'asso. » J'ai eu un énorme coup de cœur pour l'association Femmes Chefs d'Entreprise, qui est la plus vieille association de femmes de France, qui a été créée en 1945, qui s'appuie vraiment sur des valeurs de partage à une époque où les hommes étaient partis à la guerre et les femmes géraient les entreprises et il fallait qu'elles apprennent à découvrir ce métier-là très rapidement. Donc, j'ai été passionnée par ça et donc, du coup, je suis rentrée dans l'association. De là, j'ai rencontré la CPME et le MEDEF. J'ai choisi de m'investir au sein du MEDEF et je fais partie des jeunes du MEDEF. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au MEDEF et surtout au MEDEF Gironde, le plus grand pourcentage, c'est des toutes petites entreprises. En fait, on se dit toujours que le MEDEF, c'est des gros patrons, machin. En fait, pas du tout. Ça apporte beaucoup de formation et d'entraide. Alors oui, il y a des grandes entreprises, mais moi, ces grandes entreprises, elles me permettent d'imaginer mon entreprise plus grande aussi. J'ai toujours dit, moi, j'aime beaucoup voler avec les aigles. Parce qu'en fait, les gens qui sont plus grands que moi, ben, ils me donnent un horizon et ils me portent. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'ils font à ma place. Ça veut dire qu'un jour, ils vont me parler d'une problématique qu'ils ont dans leur entreprise que je n'ai pas. Mais le jour où je vais avoir la problématique,
je saurai faire.
Exactement. Ouais. Et du coup, ça me permet d'imaginer les choses différemment. Il y a plein de choses qui est actuellement dans la boutique qui m'ont été apportées par des gens que j'ai rencontrés par-ci par-là. Par exemple, on a mis des flashcodes sous l'histoire des marques pour avoir directement la traduction en anglais, en espagnol, en allemand, l'histoire des marques.
Énorme.
Ça, j'avais l'envie de faire, moi je voulais faire une tablette où les gens appuient sur la marque avec une imprimante qui imprime le truc, qui machin, et on m'a dit, mais l'usine à gaz ton truc, fais un flashcode et fais le truc.
Oui.
Et j'ai fait...
Mais
en fait tout ça se fait par le réseau et le réseau, moi j'ai pas un réseau pour avoir du réseau, j'ai autour de moi des gens qui sont inspirants que j'ai dans des tiroirs différents, donc au MEDEF, à la chambre de commerce maintenant, parce que du coup par le MEDEF par cette journée de vendange à l'aéroport, j'ai découvert aussi le travail des élus de la chambre. Et moi je savais que j'ai toujours investi mon temps pour des associations, tout le temps. Le Secours catholique, Raoul Follereau, tu vois, tout. Et le Secours populaire aussi, énormément. Et donc, du coup, j'ai toujours eu besoin, envie d'investir de mon temps. Et donc, j'ai senti déjà que c'était les prémices en 2018 de mon élection en 2022 en tant qu'élue à la Chambre de commerce, tu vois.
Ah oui.
C'est à chaque fois, ça a été, ben voilà, 2018, les vendanges à l'aéroport. J'ai rencontré le directeur de l'aéroport. J'ai rencontré femme chef d'entreprise. Ensuite, le MEDEF. La chambre en parallèle, et puis la préparation des élections à la chambre, le Covid, un nouveau directeur à l'aéroport, de nouveaux échanges avec l'aéroport et la mise en place d'un corner à l'aéroport en 2023 sur l'été 2023,
ouais,
qui s'est construit par ces échanges là donc finalement en fait
c'est du long terme, enfin
mais je calcule rien en fait, c'est
ça,
juste
fait comme ça en fait.
C'est juste des gens qui on échange, ça se fait pas, et moi j'en attends rien, j'ai pas de vision de l'entreprise, tu vois, à long terme, parce que je me connais trop bien, et en fait je sais que je suis capable, pour un coup de cœur, de partir sur autre chose
totalement.
Totalement oui et non, mais tu vois, au marché de Noël j'ai rencontré le directeur de l'office du tourisme de Québec. Parce que du coup, je suis vice-présidente aussi de l'asso des commerces de Bordeaux et on a organisé le marché de Noël et j'ai choisi de le faire sur le Québec et donc on a travaillé avec l'Office du tourisme de Québec et on a invité vraiment la destination Québec à Bordeaux pour aussi rendre hommage au jumelage de l'Office du tourisme de Bordeaux et de la ville avec l'Office du tourisme de Québec. Donc toujours cette volonté de mettre en valeur le travail des gens, mais différemment, par un côté peut-être plus festif qui me caractérise. Et du coup, bah, clairement, il m'a dit « Ah, mais ce serait trop bien que tu viennes à Montréal. » Mais je ne me ferme aucune porte, cher Robert.
Ben oui, non,
je ne
me
ferme aucune porte. Si tu veux qu'on fasse
échoppe de la lune
à Montréal sur un truc, faut voir au niveau logistique parce que je ne sais pas faire.
Oui.
Mais je me dis que tout est possible si on a l'envie et qu'on est entouré de gens qui savent faire.
Donc tout ça, ça prend énormément de temps. Mais ce que j'entends aussi, moi, derrière tout ça, c'est tu as un souci de transmission.
Oui, mais clairement, c'est ce
et
que...
Et donc, justement, on parlait tout à l'heure avec les jeunes.
Oui.
Qu'est-ce que tu souhaites leur transmettre, justement?
De ne pas avoir peur. En fait, c'est que moi, ce que j'aime pas, c'est les jeunes qui ont plein d'idées, mais qui ont peur d'y aller. Je me dis, mais la peur, c'est vraiment quelque chose qui nous immobilise. Et finalement, j'écoutais un podcast d'une dame que j'adore aussi, Cathy Collard, qui était présidente de Picard, et qui disait « Ne pas avancer, c'est reculer ». C'est parce que le monde est en perpétuel mouvement et le monde va de l'avant. Et en fait, si tu bouges pas, tu recules.
Oui,
mais c'est tellement ça. Et du coup, je n'aime pas que les jeunes se fassent des idées, des difficultés. Alors oui, des difficultés, il y en a. Et tout dépend le modèle. Moi, j'ai eu la chance d'avoir envie de développer un modèle sans le vouloir qui ne me demandait pas d'emprunt. Donc, je ne suis jamais allée voir une banque. Je n'ai jamais fait un business plan. J'ai toujours fait vraiment... grandir l'entreprise petit à petit, c'est-à-dire que j'ai jamais voulu aller plus haut que ce que j'étais capable de faire ou de l'argent que j'avais. Tu vois, tout s'est auto-financé parce que du coup, je fais très attention aussi à la gestion.
Oui,
je suis ultra raisonnable.
T'es très raisonnable.
Et du coup, c'est pour ça que quand il y a eu le Covid, la première chose que j'ai faite, c'est payer tous mes fournisseurs parce que je me suis dit, si mes fournisseurs s'écroulent, je m'écroule avec parce que j'aurais plus rien à vendre. Donc du coup, c'était pour moi très important de payer mes fournisseurs en premier, par exemple.
Mm-hmm. Et donc ça, c'est vraiment ce que tu cherches à transmettre, qu'il faut aller de l'avant et...
Oui, puis partager mon parcours, partager mes erreurs, partager ma jeunesse fougueuse à Auchan où j'ai voulu faire mes preuves parce que j'étais très jeune quand j'ai commencé chez Auchan. Enfin, pas quand j'ai commencé chez Auchan, mais quand j'ai été en achat, en centrale d'achat, clairement, mes collègues m'appelaient bébé. Parce que j'avais 23 ans et que j'étais la plus jeune et qu'ils avaient tous allé 32, 33, 34... Et en fait, moi, j'avais 23 ans et ils disaient « Ouais, qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là ?» En fait, c'est juste que j'avais passé un entretien avec quelqu'un qui ne m'avait même pas demandé mon âge. Il ne m'avait même pas demandé mon âge. Et quand j'étais sortie de l'entretien, il m'a dit « Comment il m'a dit ça ?» Il m'a dit « T'as une belle tête, mais elle est bien pleine. » Un truc comme ça. Et donc, je suis sortie de l'entretien, j'ai appelé mon père et il m'a dit « Comment c'est passé ?» Je dis « Franchement, j'en sais rien. » Moi, j'ai toujours du mal avec le second degré. Chez moi, c'est peut-être pour ça que j'avais pas compris avec Gonzague, Lurton. C'est peut-être aussi pour ça que j'avais pas compris. Je commence à réaliser, ma mère se moque tout le temps de moi en disant que je ne comprends jamais le second degré. Je suis très terre à terre comme fille, je suis entière. Et du coup, c'est vrai qu'il m'avait dit ça. J'ai dit, je ne sais pas ce que ça veut dire au final. Est-ce que du coup, c'est bien ou pas bien? Enfin, vraiment, voilà. Et en fait, il avait cru en moi. Et c'est mon premier jour quand je suis arrivée à ce poste-là qui est, mais t'as quel âge en fait? 23 ans. Ah oui, d'accord, quand même.
Ah,
ok.
Ouais.
Et en fait, voilà, tout le monde m'appelait bébé. J'ai voulu montrer à tout le monde que j'étais pas un bébé et que j'étais pas là par hasard. Et donc, j'ai fait des gros coups d'achat, mais qui ont eu derrière des répercussions désastreuses parce que j'ai mis en rupture tous les magasins de France, d'Italie, d'Espagne et de Portugal. Alors,
ouais,
vous me direz, c'était pas grave en soi. Il y a beaucoup de gens qui étaient déçus, mais c'était sur le surimi de la marque Pousse, le premier prix.
Okay.
Donc, autant dire que pour pas grand-chose de plus, autant acheter de la marque distributeur. Mais vraiment, c'était pas un produit de grande qualité. Mais il y a beaucoup de gens qui comptaient sur ces prix-là, qui sont à bas prix et qui sont à base de poisson pour leur salade de riz. Et du coup, j'ai mis tout le monde en rupture. Donc, je partage aussi tous ces écueils qui me font rire, en fait. Il y a rien.
C'est ton expérience aussi, il y a rien à cacher. Est-ce que justement, je rebondis là-dessus, parce que c'est intéressant en termes d'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes dans les shops de la Lune que tu as fait qui n'a pas marché ou une façon de faire?
Je regrette qu'au bout de 6 ans, j'ai toujours pas réussi à ouvrir une deuxième boutique. Je devais prendre un local à Saint-Émilion. Je devais signer le 16 mars. Et pour prendre un local
cette année, là ?
Non, 2020. 16 mars 2020.
Ah, d'accord.
Et du coup, il y a eu le confinement. Je venais d'accoucher depuis 2 semaines de mon fils. les hormones au taquet, la signature qui devait se faire, et puis finalement le bail qui avait une phrase qui m'allait pas, mais que le propriétaire voulait pas trop changer. Donc ça n'allait pas. Ça, il y avait quelque chose qui sentait pas bon dans l'air. Donc j'ai décidé d'arrêter. J'ai vécu ça au début comme un échec, puis après j'ai réalisé que c'était finalement le courage de l'entrepreneur aussi de savoir dire non. Et au final, j'ai bien fait de le faire parce que pendant des mois et des mois, Saint-Émilion était en berne, quoi. Donc j'aurais perdu énormément d'argent, donc j'ai bien fait de le faire. Mais c'était pas facile. Là, voilà, c'était ce que je vivais comme un échec, mais que je ne vis plus. Là, récemment, le mois dernier, je devais prendre une boutique rue Saint-James. Et j'ai fait une offre en dessous du prix, mais de pas grand-chose, tout en me disant le prix est correct et j'ai envie de le prendre à ce prix-là, mais allez, on va négocier un petit peu, on va se mettre juste un peu en dessous, le marché de l'immobilier est pas foufou, on tente. Et en fait, j'avais juste envie que quelqu'un me dise, écoute Anna, t'y tiens à ce local, fonce, prends-le au prix, bataille pas. C'est quoi, j'étais 10 000 euros en tout. C'est quoi 10 000 euros sur la vie que t'imagines dans ce local? Et personne autour de moi m'a dit ces mots-là. Et je suis peut-être pas allée voir les bonnes personnes, parce que les personnes que je suis allée voir étaient plutôt prudentes pour moi et voulaient que je fasse mes choix par moi-même au lieu de m'accompagner par leur avis. Et donc toujours aussi savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est pas forcément. Là, en l'occurrence, c'était mon conjoint qui m'a dit, bah, écoute, c'est ton projet, vas-y. Alors qu'en fait, il est en finance, et donc il était très bien capable de me dire, Anna, en fait, c'est rien, 10 000 euros, si vraiment tu kiffes, voilà. Sauf qu'en fait, c'est mon conjoint. Et donc, du coup, c'est pas forcément les conjoints, les bonnes personnes pour conseiller. Je t'aime, toi aussi. et du coup, de toute façon, il m'écoutera pas.
Je m'en fiche. Oui, mais tu l'as mis.
Je m'en fiche.
Voilà, salut.
Et c'est ça.
Mais, et donc, comment ça s'est passé?
Et donc, du coup, il y a eu deux offres au prix, et donc, je n'ai pas eu le local. Et là, pour le coup, je me suis dit, ok, franchement, c'est génial. J'ai appris énormément de choses, des choses que je n'imaginais pas, sur des montages juridiques, sur des, voilà, en disant, bah, si t'as une deuxième boutique, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Donc, ça m'a permis de parler avec des avocats, avec mon expert comptable, avec ma banquière, sur des possibilités de financement, sur machin. Donc, au final, si demain je trouve un truc,
là,
je suis au taquet.
Là, t'es au taquet.
Voilà. En revanche, j'ai vraiment été triste parce que je n'ai pas eu le courage de suivre mon intuition. Et ça, pour moi, ça, c'est dur. Parce que je savais, au fond de moi, que je connaissais la décision.
C'était lui,
il y en a d'autres, mais celui-là était vraiment très bien. Mais j'ai pas eu le courage de suivre mon intuition. Là où, finalement, dès qu'il y a un problème, une merdouille sur un local, je le vois et je me dis, ok, non. Et là, je suis sûre de moi. Autant là, j'ai eu un vrai, et je l'ai toujours, il y a des gens qui me disent, ah, c'est qu'il n'était pas fait pour toi. Non, il était fait pour moi, les gars. Il était fait pour moi.
Mais pour le coup, t'as pas osé.
Mais j'ai pas osé. Et pour quelqu'un qui dit mon mantra,
oser.
Qui ose gagne,
voilà.
Lol, quoi.
Ouais, mais méga lol.
Voilà. Barbie, grosse menteuse. Donc voilà, franchement, je m'en veux pour ça. Et en même temps, bah écoute, j'ai 37 ans, voilà.
Enfin, je veux dire, t'as ta vie d'entrepreneur devant toi.
Je peux dire encore que c'est une erreur de jeunesse à 37 ans.
Oui,
on peut le dire.
Grave.
Ok, on le dit.
Grave.
Erreur de jeunesse.
Erreur de jeunesse. Et à contrario, c'est quoi ta plus grande fierté?
C'est d'avoir su créer une atmosphère où les gens s'épanouissent professionnellement, sont heureux de venir travailler et ils ont un salaire. Je fais vivre des gens, quoi.
C'est énorme.
Franchement,
c'est ouf,
ça c'est ouf. Pour moi, c'est me dire, il y a des gens
qui dépendent de toi.
Voilà, par exemple, il y a quelqu'un qui me dit, j'ai pas compris ma ligne sur ma fiche de paye.
Ouais.
Ah, je prends pas du tout ça à la légère.
Bah, oui.
C'est leur fiche de paye. C'est le travail et c'est le salaire qui va payer leur loyer, qui va payer le fait qu'ils vont pouvoir se faire un resto ou non. Qui va, voilà. Et on touche à la vie des gens. Donc, pour moi, je n'ai jamais vu ça comme une inquiétude. Peut-être un peu pendant le Covid, mais vite fait. En fait, c'est pas tant moi qui ai eu l'inquiétude, c'est mes salariés. Mais j'ai jamais vraiment vécu ça comme une inquiétude. Par contre, c'est une belle fierté. Ça est quand même une deuxième. Allez, soyons fous. C'est Arthur qui a rejoint nos équipes là en octobre. Et Arthur, c'était un alternant qui est venu il y a 2 ans, pendant 8 mois. Et il est venu la première fois qu'on s'est rencontrés, il était pas bien, il était en cours d'alternance et en fait il avait démissionné d'une alternance dans une autre entreprise. Et il est venu avec zéro confiance en lui. Et il a eu l'humilité de me dire, En fait, son école voulait qu'il vienne chez moi. Et lui, il n'était pas venu de lui-même. Et moi, je m'étais dit, ah, il a un bon profil, il a l'air bien, mais sauf qu'il est, il avait jamais franchi la porte. Et il arrive, genre, 2 mois après, et je me dis, ah, mais c'est toi dont j'ai reçu le CV, pourquoi t'es pas venu avant? Il a eu l'humilité de me dire, bah, en fait, j'étais pas bien, et j'étais tellement au fond du seau qu'il m'a fallu du temps pour me reconstruire. Et bah, j'ai adoré, je l'ai pris direct. Et en 8 mois, voilà, il était chez nous. Il est parti 2 ans faire un master, donc avec 2 ans d'alternance ailleurs. Et à la fin de son alternance, moi, j'avais un poste qui arrivait parce que je sentais que Colombe voulait faire un changement professionnel. Et je lui dis, bon, voilà, juste te dire que je vais avoir ce poste-là. Et je voulais t'en parler parce que je pense que tu pourrais être quelqu'un de bien. Et puis, comme tu viens de finir tes études, voir où t'en es et ce que tu veux faire. Et donc, on parlait comme ça. Et il me dit, bah, quel salaire, nanana. Je lui dis, bon, j'en sais rien parce que du coup, il n'y a pas de poste. Mais en vrai, je pense que ça serait plutôt ça. Et il me dit, franchement... sincèrement, t'aurais pu même me proposer moins parce que rien que pour ma santé mentale, j'aurais choisi de venir travailler avec toi.
Ah, génial!
Ça c'est niveau fierté.
Là, on est bien là.
Là, et mot pour mot. Et là, je me suis dit, purée, les larmes aux yeux. Et je me suis dit, ok, mais je suis pas là par hasard, je suis alignée, je suis à ma place. Et je suis vraiment très heureuse de la confiance qu'il m'a faite. Et puis aussi, en fait, finalement, c'est la reconnaissance aussi de ce moment où il est venu et qu'il a eu l'humilité de me dire « je suis pas bien et voilà, j'ai besoin de me reconstruire et de ce moment de confiance qui s'est créé entre nous et qui fait que j'ai une confiance illimitée. Quand je donne ma confiance, je la donne en entier. Je donne pas un peu de confiance.
Non.
Je donne ma confiance et là, c'est clair.
Et là, c'est passé génial. Voilà. Écoute, Anna, waouh, c'est...
Moi, c'est chouette, hein.
C'est joli, hein. Ouais. C'est beau.
Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure.
Oui, cool, mais il n'y a pas de raison. Ouais. Enfin, je veux dire, enfin, voilà, t'es alignée. Ouais. Enfin, c'est... Non, c'est super. On arrive à la fin de la conversation.
Déjà.
Ouais, déjà. Ça fait une heure qu'on discute. On n'arrêterait pas.
Tu veux pas faire un format 3 heures comme Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie?
Oui, non, pas encore.
Moi, je suis quand tu veux. Hein.
Mais écoute, je réfléchis au format. Et puis à ce moment-là, ouais, on se fera ça. Il n'y a pas de souci.
Et là, il y a tout le monde qui va mettre en commentaire. Non, non. Une heure, ça nous va bien.
S'il te plaît. Ouais. On arrive à la fin. Donc, je suppose que tous les jours, tu as de nouveaux produits qui arrivent. Est-ce que tu peux nous en parler? Quel serait le prochain produit que tu vas mettre en rayon?
Ah, je peux te dire celui qui vient d'arriver, parce que c'est incroyable.
Vas-y.
On parlait de Cacolac tout à l'heure. Ouais. Tout le monde connaît le Cacolac. Cacolac a lancé une gamme qu'ils ont appelée la gamme Barista. C'est une gamme... Donc aujourd'hui, en Cacolac, tu as des formats 20 centilitres, 25 et 15 centilitres pour les enfants, en briquettes. Et là, ils ont sorti des briquettes de 20 centilitres, donc un peu plus grand que ce qu'on donne aux enfants, mais typé adulte. Et ils ont appelé ça barista parce que tu peux en faire des cocktails avec, mais en vrai, c'est juste un cacolac déjà typé adulte. Ah. 3 recettes.
Ok.
Attention.
Ah, vas-y.
Le noir intense, qui ressemble un peu genre à un... Alors, je veux pas... À mon humble niveau, hein, je trouve qu'il ressemble au chocolat Varlona, tu vois.
Ok.
Liquide, chocolat au lait. Mmh. Donc, gourmand, épais, avec un vrai goût de cacao, pas trop sucré. Incroyable. Ils ont sorti le mocha. Ouais, madame.
Ok.
Cacolac mocha, donc chocolat, café, à boire frais, trop bon, on en a toujours au frigo. Et le dernier, le cacolac chai.
Énorme.
Incroyable. Le cacolac chai, qui sur le papier était celui qui me séduisait le plus, en vrai, il est vraiment typé adulte et il est très épicé, hein, avec un vrai goût, j'aurais dit comme ça, cardamome, tu vois, des épices pas consensuelles. Donc, vraiment, les amateurs... Moi, j'adore tous les chai. Tout chai différent. J'aime tous les mélanges chai. Que ce soit en thé, que ce soit en latte. J'aime tout. On pourrait me faire un yaourt chai que ça me ferait kiffer. Mais donc j'aime bien. Mais à la différence des deux autres, j'ai mis plus de temps à le boire parce que très épicé. C'est pas plus mal, tu me diras.
Oui, comme ça, tu le dégustes, en
fait. Alors que les autres...
Tu
les dégustes tous parce qu'ils ont tous vraiment du goût. Mais voilà, donc non, ça, c'est une très belle nouveauté, je trouve. J'y crois fort.
Et donc, ça y est, tu les as rentrés?
On les a rentrés samedi. Ils sont arrivés samedi matin. On avait pris 3 cartons de chaque pour commencer.
Ouais.
45 minutes après avoir mis en rayon, il y a déjà des gens qui nous les ont achetés en carton entier. Donc, on a dû, quelques jours après, se faire relivrer. Donc, très sympa. Très sympa comme produit.
Bon, écoute, je vais aller à la boutique.
Voilà, et spoiler alerte, bientôt, je ne les ai pas encore, on va recevoir aussi du café bio, des cafés de Chanquet, mais en bio.
Ok.
En grain. Alors tout ça pour te dire que je ne sais pas qui est Mélanie, parce que typiquement, c'est un sourcing que j'ai complètement délégué à mon équipe. Donc je n'ai pas goûté
sur le bassin.
Ah ben voilà, c'est elle qui
est pour le podcast.
Ah ben voilà, mais trop drôle. La boucle est bouclée, Mélanie, bientôt ton café en rayon de l'échoppe de la Lune sur
Excellent.
La Garonne. Tu vas passer du bassin à la Garonne.
Ah ouais, et génial. Et l'eau toujours.
L'eau comme fil conducteur. Et donc du coup, non voilà, ça fait typiquement partie des produits où en fait sur le vraiment les produits les plus importants pour moi, je garde une main sur le sourcing, autant le café. Je ne bois pas de café. Je suis donc une très mauvaise sélectionneuse de café. Je fais confiance aux gens qui...
À
l'expertise et aux besoins. C'est-à-dire que moi, personne ne me demande du café. Parce que du coup, vu que je parle d'autre chose, les gens ne me demandent pas du café, ou rarement. Et alors que les équipes disent « Ah, là, quand même, on a quand même de plus en plus de demandes du café. » On travaillait avec un torréfacteur que j'aime énormément, Pierre Guérin, du café Pia.
Ouais.
Et en fait, la problématique qu'on avait, c'est que son café moulu se garde pas beaucoup. Et donc, du coup, il fallait qu'on ait... Pour nous, en termes de gestion de stock, c'était compliqué. Donc, on avait une machine qui nous permettait de moudre à la demande. Donc, du coup, on l'avait en grain. Du coup, en grain, il se garde beaucoup mieux. Donc, on le broyait à la minute. Mais finalement, la machine ne marchait plus. Puis, c'était cher d'avoir une autre machine, pas rentable par rapport au volume qu'on faisait. Donc, au final, c'est un peu compliqué, même si je crois énormément aussi aux petits torréfacteurs qui vont aller sourcer des approvisionnements vraiment pointus. Mais voilà, du coup, on oriente en fonction des besoins de nos clients vers l'alchimiste, vers Café Pia.
Il y a tellement de choses à,
oui.
à découvrir de toute façon. Merci beaucoup, Anna, pour cette richesse.
Mais merci à toi de m'avoir invitée à papoter.
Tu disais tout à l'heure que tu pensais que tu correspondais pas à la cible. Mais si, parce que tu parles gastronomie, tu parles passion, tu parles terroir. Enfin, je veux dire, tu parles transmission. Engagement, créativité et bienvenue.
Et finalement, on n'a pas parlé de quelque chose dont je pensais qu'on allait parler et du coup, ça sera pour le format 3 heures. C'était que finalement, moi, je crois aussi aux synergies entre les acteurs de la food. C'est-à-dire que moi, j'aimerais plus travailler avec des restaurateurs, avec le Bordeaux Food Club, avec parce qu'en fait, finalement, ils ont une vision du gourmand bordelais qui est très différente de la mienne, mais qui est en même temps ultra complémentaire.
Exactement.
C'est-à-dire qu'elle n'est pas différente de la mienne, elle est différente de celle que je vends en boutique. Même si
ça reste
Bordeaux gourmand.
Ça reste Bordeaux gourmand, ça reste expérience, ça reste.
Exactement.
Ça reste pédagogie, ça reste l'ouverture.
Et moi, je crois en les synergies entre la presse gourmande, les influenceurs ou les blogueurs comme Audrey et Anne,
Anne
de Papier et Pupille. Moi, c'est cet univers-là de dire, mais en fait, j'adorerais un jour, je sais pas sous quel modèle, mais se mettre tous autour de la table. Et dire en fait, la food, c'est tout ça. La food, c'est les blogueurs, la food, c'est les épiceries, la food, c'est les restos et c'est les événements culinaires. Et ça m'anime énormément et j'aimerais qu'un jour, on arrive à faire rayonner Bordeaux Gourmand dans sa pluralité, avec le vin aussi, mais aussi avec la bière, tout ça.
Moi, je dis que c'est une très belle ouverture. On va terminer sur ces belles paroles, sur cette ouverture-là. Et oui, effectivement, ça peut générer un autre épisode, pourquoi pas, sur...
Oh, la fille, elle n'a même pas fini qu'elle se réinvite. Insupportable.
Non, mais c'est vrai, parce que pareil, moi, ça mouline aussi à l'intérieur. Mm. C'est sur un nouveau format, tu vois, de dire, mais qu'est-ce qu'elles deviennent? Quels sont les projets mis en place? Donc, c'est quelque chose qui va arriver. Spoiler alert.
Ouh
là là. Et,
Stay tuned.
Stay tuned. Hashtag stay tuned. Coming soon. C'est super. Et vraiment, c'est... ces synergies-là, elles doivent être mises de plus en plus en place, en fait.
Merci à toi.
À très bientôt.
Au revoir.
Ciao.
Un immense merci à Anna pour son temps et son accueil. Je ne peux que vous encourager à foncer au Quai des Marques et ouvrir la porte de l'échoppe de la Lune. Vous y trouverez le sourire, l'histoire, les produits, Bordeaux. L'actualité de l'échoppe de la Lune se fera sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Le lien sera indiqué dans la bio de l'épisode. Ce podcast auto-édité ne serait rien sans vous, de par vos écoutes, vos partages. Merci pour tout cela. Parce que justement, il est auto-édité, j'ai besoin plus que jamais de vous. Mes invités et moi avons besoin de vous pour que les engagements pris par leurs soins soient entendus par un grand nombre de personnes. Comment pouvez-vous m'aider à gagner en visibilité et faire entendre la voix des femmes venues au micro du podcast? Tout simplement en allant sur Apple Podcasts ou Spotify et y inscrire 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela vous prendra 2 minutes et pour nous toutes, cela voudra dire beaucoup. Merci infiniment par avance. Je suis Stéphanie Bautreau, créatrice du podcast Des ailes en cuisine, et je vous dis à très bientôt.